C'est l'heure de retrouver Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Lucas.
La revue de presse internationale et ce matin, à chacun son terroriste.
Oui, il y a quelques jours, anticipant déjà ce qui s'annonçait comme un rassemblement géant contre le régime en place, le président turc Erdogan n'avait pas hésité à accuser Kemal Kılıçdaroğlu de se ranger du côté des terroristes. Une accusation que le quotidien pro-gouvernemental Yeniz Afak a d'ailleurs aussitôt reprise à son compte sous ce titre « Quand le chef de l'opposition marche main dans la main avec des terroristes ». Et pourtant, lorsqu'il s'est présenté à la foule venue l'acclamer hier à Istanbul, armé d'une simple pancarte sur laquelle était écrit le mot « justice », celui que l'on surnomme Gandhi Kemal pour sa ressemblance physique avec le guide spirituel n'avait rien d'un dangereux criminel. Son seul crime en réalité est d'avoir réussi son pari. Lui qui, il y a un peu moins d'un mois, avait initié une longue marche pour protester contre la condamnation à 25 ans de prison d'un député membre de son parti a été rejoint par des milliers de Turcs. De sorte que cette marche est arrivée presque comme une surprise, car ce parti d'opposition, certes historique, avait depuis plusieurs années déjà perdu ses lettres de noblesse au fur et à mesure que le président Erdogan avait lui étendu ses pouvoirs. En ce sens, l'engouement pour le rassemblement organisé hier constitue tout autant une heureuse surprise qu'une démonstration de force inquiétante pour le président turc, note le quotidien Handelsblatt, lequel recommande à Recep Tayyip Erdogan de prendre au sérieux cette contestation, faute de quoi, conclut le journal, il risque de se retrouver avec ce qu'il veut absolument éviter en tant que chef de l'État tout-puissant, c'est-à-dire une véritable opposition.
Une autre démonstration de force continue de faire la une de la presse en Allemagne cette fois-ci. C'est celle qui aura émaillé le G20 toute cette fin de semaine.
Oui, deux jours après la fin du sommet, Hambourg à la gueule de bois, écrit Le Temps, pendant trois nuits, la ville réputée ouverte et tolérante aura été le théâtre d'affrontements violents. Au total, près de 500 policiers ont été blessés et 300 personnes interpellées. Ce n'est pas assez, peste en particulier le tabloïd Bild qui traite en une les manifestants altermondialistes de criminels et de ratés. Quand le Tagesspiegel estime que les mots lui manquent, le Berliner Courier évoque lui la honte de Hambourg. De leur côté, la Süddeutsche et Sonntag Express dénoncent pour l'un le sommet de la fureur et pour l'autre un sommet de cauchemar. Bref, à l'heure des bilans et notamment les failles supposées du dispositif de sécurité, se pose plus que jamais la question de savoir si les résultats fragile obtenu à la table des négociations justifie les sommes engagées, plus de 300 millions d'euros pour l'organisation du G20. S'agissant notamment de la lutte contre le réchauffement de la planète, le sommet s'est achevé à 19 contre 1, les États-Unis ayant annoncé leur retrait de l'accord de Paris. Et d'ailleurs, Donald Trump aura essentiellement profité de la tribune offerte au G20 pour mener en réalité des discussions bilatérales du point de vue américain et russe. L'entrevue entre Trump et Poutine a même été le point fort de ce sommet. Il y avait une alchimie positive et un tel niveau d'échange qu'aucun des deux ne voulait s'arrêter, a déclaré le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Trump, Poutine, le dégel, titre ainsi la Razón. Alors, vrai ou faux pour The Weekend Australian, si Trump et Poutine se sont bien serrés la main, en revanche, l'hostilité demeure. Les deux hommes auraient en particulier évoqué l'ingérence russe pendant la campagne de la présidentielle américaine, sauf que Vladimir Poutine a nié toute accusation. Et pourtant, hier, Donald Trump Jr. a lui admis au New York Times avoir rencontré pendant la campagne présidentielle une avocate russe qui prétendait avoir des informations compromettantes sur Hillary Clinton. Le fils aîné de l'actuel président n'était d'ailleurs pas seul. Il précise que Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, et Paul Manafort, à l'époque directeur de la campagne du Républicain, étaient eux aussi présents. Le quotidien qui a découvert l'existence de cette rencontre non déclarée note que l'entretien a eu lieu le 9 juin 2016 à la Trump Tower. Et d'en conclure, cette rencontre représente bel et bien le premier élément public révélateur du fait que le camp républicain était effectivement prêt à accepter l'aide de la Russie dans cette campagne. Et puis toujours, lors du G20, Trump et Poutine se sont accordés sur un cessez-le-feu partiel dans le sud-ouest de la Syrie, ce qui constitue, selon la nouvelle administration américaine, un succès diplomatique, sauf qu'aucune annonce de cette trêve n'a été faite dans l'immédiat par les belligérants. De son côté, Damas avait déjà décrété un peu plus tôt une trêve unilatérale de quelques jours dans le sud du pays, coïncidant avec la tenue de négociations avec les rebelles au Kazakhstan.
Autre titre à la une de la presse ce matin, évidemment la reconquête de Mossoul, dont Daesh avait fait son principal bastion en Irak.
Oui, à l'issue d'une bataille de près de 9 mois, le Premier ministre irakien est arrivé hier dans Mossoul libéré et a salué une victoire majeure contre les djihadistes du groupe État islamique. Reste que si le I ne contrôle plus Mossoul, il n'a pas pour autant disparu, prévient aussitôt Le Temps. En particulier, des centaines de djihadistes irakiens ont pu se faufiler parmi les civils qui s'échappaient chaque jour de la vieille ville. Et puis, déjà la semaine dernière à Mossoul, dans les quartiers ouest, des habitants disaient leur méfiance et leur conviction que l'organisation État islamique reviendrait d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes pas en sécurité, les gens ont peur, raconte ainsi Younis, un traducteur qui travaille avec des ONG. Personne n'a pensé à l'après, dit-il, avant d'ajouter, les chefs de Daesh sont toujours là et ils peuvent recruter à nouveau. Enfin, le journal Al-Ayat, repéré par le Courrier International, raconte lui le triste sort des habitants de Raqqa en Syrie. Là-bas aussi, la fin de Daesh paraît imminente, mais la méthode pour y parvenir est mise en œuvre au détriment de la vie des habitants. Les bombardements effectués par la coalition y font un nombre colossal de victimes civiles, d'après la commission d'enquête indépendante de l'ONU. Pourquoi ? Parce que terrorisés par Daesh durant 3 années, ils sont aujourd'hui assimilés à l'organisation djihadiste.
Merci Thomas Cluzel et à demain.